France Inter.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
La saison des confitures arrive bientôt.
Ah oui, confiture fraise rhubarbe.
C'est un choix de mélanger les deux.
Oui, bah parce qu'il y a des fraises et des rhubarbes en même temps.
Voilà.
Elle est trop bonne, ta confiture.
Donc la pectine de fruits, c'est du zeste d'agrumes qui a été broyé puis déshydraté. Voilà, donc on n'utilise que des produits naturels, nous c'est fruits, sucre, pectine de fruits et jus de citron.
Faut surveiller, bien tourner et ajuster le feu.
Oui.
Pour pas que ça se sauve. Ben oui, ça boue, ça monte et puis ça déborde.
Des crêpes à la confiture. Des crêpes à la fonticure.
Pas les confitures bizarres là, des fruits qu'on connaît pas.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Ça y est, c'est l'été, le soleil donne enfin, les vergers donnent des fruits et c'est le moment de s'adonner à l'un de nos sports préférés, les confitures, une véritable passion française. On sort les bassines, les paniers, les vieux pots, les paquets de sucre et on savoure une petite leçon de confiote qui dépote avec Stéphane Perrotte. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le grand pro de la confiture. Champion du monde de la confiture, en quelle année?
En 2015.
Ah ouais, quand même, vous êtes une des grandes signatures de la confiture française, vous êtes installé en Anjou et vous fabriquez des confitures exceptionnelles, reconnues, distribuées dans toute la France. Stéphane, on attend évidemment vos conseils, vos recettes, vous êtes arrivé avec vos meilleurs pots que vous allez nous faire goûter, on va plonger les doigts et les cuillères dans vos pots de confiture. Voilà, on va vraiment plonger à fond dans la culture confiture, on va la cuisiner cette confiture, mais on va aussi vous la raconter avec notre historien maison Loïc Bienassis. Bonjour.
Bonjour.
Je crois savoir, Loïc, que la confiture vous a donné un peu de fil à retordre. Je me trompe?
La confiture, c'est pas de la tarte. Je l'avais préparée.
Mais compliqué.
Compliqué.
Bon, on va essayer d'y voir plus clair avec vous, évidemment. Avec nous, pendant toute l'émission, notre prof de cuisine, Jean-Matta Christol, et notre chroniqueuse vin, Justine Knapp. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Comment vous allez?
Ça va très bien.
Jean,
bien
aussi, ouais, ça va nickel. Alors aujourd'hui?
Aujourd'hui, je vous propose une devinette dont la réponse prendra pour certains d'entre nous des allures de souvenirs d'enfance.
Ouais.
Quel est le rapport entre notre thème du jour, le pain d'épices et les Vosges?
Intéressant. Justine?
On verra que le sucre, c'est une question de dosage, alors dans les confitures et dans le vin aussi.
Et oui, question très intéressante, résolue par Justine. Dans un instant, envoyez-nous vos questions, vos recettes, vos souvenirs gourmands autour des confitures sur notre mail, on va déguster à radiofrance.com et sur le bouton réagir depuis l'appli mobile de France Inter. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver sur franceinter.fr, à la page on va déguster, les recettes de confitures, alors framboises, fraises, abricots de notre invité Stéphane Perrotte, mais également un grand banc d'essai de confitures. Confiture artisanale avec tous nos coups de cœur classés par parfum. Je vous redonne le chemin à suivre. Franceinter.fr, à la page, on va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Pour commencer, une petite surprise que je vous fais déguster à l'aveugle. Vous connaissez mon esprit joueur, vous avez sous vos micros ce qu'on peut raisonnablement appeler des confitures. Encore faut-il trouver un parfum, voire deux parfums, voire trois parfums. Alors il y a deux parfums qui se baladent autour de ce plateau. Qui veut prendre la parole pour commencer? Je sens Loïc bien parti là.
Alors, des agrumes dans la mienne.
Bravo.
Orange.
Bravo.
Abricot. Non, je me demandais s'il n'y avait pas une pointe d'abricot qui traînait quelque part.
Alors en tout cas, vous avez dit orange. Il n'y a pas d'abricot. Ah. Et orange, vous avez une première partie de l'équation, une grosse partie, on va dire. Stéphane, je crois que vous avez la même confiture que... Non? Oui,
oui,
si
oui. Alors moi, j'ai effectivement les oranges. J'ai orange, je pense qu'on a un peu de vanille.
Bravo.
Une petite touche de vanille.
Bien joué. Deuxième produit.
J'hésite avec une petite pointe de pamplemousse ou de citron.
Même pas. Orange, vanille, il y a également un petit oléagineux qui se balade dans votre confiture tous les deux, Loïc et Stéphane.
D'accord.
Vous l'avez pas? Le
non,
petit morceau qui craque? Ah,
non.
Alors peut-être qu'il n'a pas été dans votre bouchée.
Sinon, j'aurais identifié tout de suite.
Il y a quelques amandes. Et pas des amandons, parce que parfois on met évidemment l'amandon qui se trouve dans le noyau de l'abricot dans certaines confitures, hein, Stéphane.
Alors en tant que professionnel, on n'a plus le droit.
Ah.
On n'a plus le droit de l'utiliser.
Parce qu'il est un peu toxique, ce...
Alors oui, il y a effectivement à l'intérieur de l'acide cyanhydrique. Alors il faudra vraiment manger des tonnes pour pouvoir avoir des problèmes. Mais voilà, le sacro-saint principe de sécurité fait qu'on n'a plus le droit de le faire.
Mais on a le droit de le faire à la maison.
Mais à la maison, on peut le faire.
C'est en même... cassant ses noyaux d'abricot.
Tout à fait.
Pour aller ramasser ce petit amandon qui a un formidable goût de noyau et qui apporte du relief à une confiture d'abricot. Côté Jean et Justine.
C'est vrai qu'au nez, on se dit c'est sûr, c'est de la rhubarbe, ça sent.
Bah oui, mais c'est de la rhubarbe, oui.
Mais en bouche, il y a quand même beaucoup de rondeur, c'est un peu vanillé.
Parce que c'est de la rhubarbe, Justine, donc bravo quand même.
Oui.
Avec une petite fleur qui vient apporter du relief.
Du sureau.
Bravo. Oh, et ben voilà, ils sont forts. Hein. Oh là là, ils sont forts. Vous avez tout trouvé.
Et on est en pleine saison des fleurs de sureau.
Sureau, rhubarbe, c'est bien trouvé.
Ouais, c'est magnifique.
Je tiens à vous dire que c'est confitures sont signées Florence Herrero, une fidèle auditrice qui habite le 20e arrondissement de Paris, qui nous a apporté ses confitures maison en main propre à la maison de la radio, avec une jolie carte postale. Je vous lis son mot parce qu'il me touche beaucoup. Chère équipe dont va déguster ces quelques douceurs, pour vous remercier de diffuser sur les ondes vos effluves savoureux et donner à ces temps sombres le goût du partage fécond et généreux. Voilà, merci chère Florence pour votre générosité, votre fidélité, puis en plus elle signe de sacrées confitures quand même. Qu'est-ce qu'il en pense, le champion du monde ?
Franchement, elles sont très bonnes. Moi, ce que j'ai goûté là, c'est vraiment très bien. Le zeste était confit comme il fallait, c'était magnifique.
Ben bravo, ben voilà Florence, ce qu'il vous reste à faire. Hein. Soit vous rejoignez les équipes de Stéphane Perrotte, il faut aller en Anjou, soit vous ouvrez carrément votre boutique de confitures à Paris dans le 20e arrondissement. En tout cas, bravo chère Florence pour vos confitures. C'est Laurent Thomas qui réalise l'émission avec Clément Vuillet derrière la console, Fabrice Riveau pour la préparation, la programmation de nos invités. C'est bientôt les vacances. Et on passerait bien un peu de temps sous un manguier, je sais pas ce que vous en pensez. Underneath the Mango Tree de Cybelle, choisi par Djoubaka. Bon appétit sur France Inter.
Underneath the mango tree, honey, honey, don't watch for the moon. Underneath the mango tree, honey, honey, make all the loops.
Confiture au menu avec Stéphane Perrotte, champion du monde de confiture 2015. Et Stéphane Perrotte, on le prend le doigt dans le pot de confiture. Et pas n'importe quelle confiture, pas n'importe quel parfum. Laquelle, Stéphane, avez-vous décidé de nous faire goûter en premier ?
Bah, moi, je vous ai amené la framboise parce que c'était le sujet des championnats du monde en 2015 qui m'a permis effectivement de remporter ce titre.
C'est sur ce parfum que vous avez gagné votre trophée ?
C'était sur le fruit imposé. Et après, il y avait trois parfums à réaliser.
Mais il y a d'autres raisons pour lesquelles vous avez choisi la framboise.
J'ai grandi à Valognes, dans le Cotentin, et dans le jardin de mes grands-mères, il y avait des framboisiers le long du mur du garage. Et c'est un souvenir d'enfance, à les ramasser, à les manger tièdes au soleil, et l'odeur des confitures après dans la cuisine était omniprésente.
Il y a une anecdote que vous avez racontée dans une interview qui me fait beaucoup rire. Il y avait chez votre grand-mère, je ne sais pas laquelle, hein, parce que vos deux faisaient des confitures.
Oui, les deux. Et puis en plus, les deux familles étaient voisines. Donc
dans le Cotentin.
Oui.
Vous êtes normand ?
Normand pure souche.
Très bien. Il y avait le fameux placard à confitures de ma mère.
J'avais cette chance qu'il soit juste en face de la porte de ma chambre. Ma grand-mère, un peu moins de chance, parce que quand je repartais, il y avait forcément des traces de doigts dans les pots.
Parce qu'alors, elle ne les fermait pas totalement avec un couvercle, mais c'était la stratégie cellophane. Hein, racontez-nous.
Oui, il y avait deux stratégies pour les deux grand-mères. La première, c'était effectivement la petite cellophane trempée dans la goutte avec les petits élastiques de couleur. Voilà. Donc là, il y a le bruit du doigt qui passe à travers la petite cellophane. Ça fait un petit bruit
merveilleux. Et ensuite, la trace du doigt dans la confiture.
Et la trace du doigt dans la confiture. Et puis la deuxième, elle mettait la paraffine. Et là, la paraffine, on va dire qu'au fur et à mesure que son âge avançait, la paraffine était plus épaisse parce qu'elle y voyait moins bien. Donc ça, c'était plus compliqué à passer le doigt à travers.
On sait où est née votre vocation de artisan confiturier, évidemment. Accessoirement, à la maison Perrotte, le parfum framboise est, je crois, le best-seller.
Chez nous, c'est le best-seller, oui, tout à fait. La fraise est la première vente, on va dire, au niveau national, oui, en France, mais chez nous, c'est la framboise.
Le trio de tête en général, hein, j'ai consulté un peu tous les sondages autour des confitures et des parfums préférés des Français. Au-delà, évidemment, des caractéristiques régionales, la figue, parfum préféré des Corses, la mirabelle, parfum préféré, ou les prunes, parfum préféré des gens de l'Est, hein, n'est-ce pas,
oui.
Justine Knapp.
Bah oui.
Mais sinon, globalement, c'est fraise numéro 1, et ensuite, c'est l'abricot et la framboise qui se partagent le podium, on va dire.
Tout à fait.
C'est soit numéro 2, soit numéro 3, ça dépend à peu près des sondages et des années, mais globalement, on est autour de ça. Vous l'avez goûté, cette framboise signée Perrotte, Justine ?
C'est incroyable. En fait, quand vous parlez du jardin, je l'ai goûté et j'avais vraiment l'impression d'être en train de les cueillir. Il y a une pureté, une fidélité de fruits qui est folle.
Sensation de fruits frais, c'est vrai ça.
Exactement. Et il y a encore les grains de la framboise.
Les pépins.
Donc, les pépins, on a vraiment l'impression qu'en l'accueillant, il y en a une qui vient de s'éclater dans la main et qu'on goûte ça, quoi.
Ouais, moi, c'est vraiment toujours la recherche de garder le fruit le plus intact. On travaille vraiment plus sur le choix des variétés, parce qu'il y a plusieurs variétés de framboises. La framboise, c'est un peu comme si je vous disais, demain, vous mangez du poisson. Oui, mais quel poisson ? La framboise, nous, on travaille sur l'année, on travaille 4 à 5 variétés de framboises différentes. Et ça, c'est important. Et l'idée, c'est toujours de garder cette idée de fruit qui a été confié au soleil. Moi, c'est vraiment ma Madeleine de Proust. Et la difficulté, c'est la maîtrise de la cuisson pour ne pas trop cuire, justement, ce petit pépin qui a la cuisson durcie. Alors que quand on a bien respecté la cuisson de cette framboise, le pépin passe tout seul.
Il est tout rebondissant. Voilà. Et en plus, on reconnaît aussi la qualité de votre framboise et cette sensationnelle saveur de fruits frais à la couleur de votre confiture qui est vraiment rouge framboise. Parfois, il y a certaines confitures de framboise qui tournent vers les reflets cuivrés et là, on sent que ça a trop cuit.
Ça a trop cuit. Bien souvent, malheureusement, la confiture est trop cuite. Donc, pourquoi ? Parce qu'on va chercher une charge en sucre et on ne va pas chercher une qualité de cuisson du fruit. Nous, on va plutôt chercher la qualité de cuisson du fruit.
Précisons que vous avez vos petits producteurs, évidemment, parce qu'il n'y a pas de grande confiture sans grands fruits. Et pour les framboises, ça n'échappe pas à la règle. Je crois qu'il y a un certain Xavier Burban.
Oui, nous, c'est indiqué sur le côté du pot. Voilà, il y a souvent la méthode de production, le nom du producteur et le lieu de la production. Voilà, donc on est très fiers de nos producteurs et on soutient nos producteurs parce que c'est pas toujours facile en ce moment pour l'agriculture française. Donc voilà, le premier, on va dire, acte patriotique, c'est certainement de défendre nos producteurs.
Avec un délai très court entre la cueillette du fruit et sa transformation en confiture ?
Ah nous, c'est toujours moins de 24 heures. Donc, et il y a même des produits où, entre le moment où ça sort du champ et le moment où c'est mis en pot, il y a 4 heures.
Et précisons que vous êtes, pour la plupart, sur du fruit biologique.
On est à plus de 90% en fruits issus de l'agriculture biologique et français.
Intéressant. Jean ?
Ouais, juste une anecdote personnelle qui rejoint un peu ce qu'on vient de dire. Moi, mon premier boulot agricole, c'était ramasser les framboises.
Non.
Si.
Où ?
Dans l'Allier, et pas très loin d'une petite ville, d'un village qui s'appelle Étroussa, où il y avait un fabricant de confitures. Et donc, on ramassait les framboises qui étaient acheminées le lendemain ou le surlendemain directement chez le fabricant de confitures. Et pour l'anecdote, on avait le droit d'en manger autant qu'on voulait, parce qu'on était payé au poids, et donc tout ce qu'on mangeait, c'est ce qu'on n'était pas payé. Et ça m'a durablement dégoûté des framboises pendant plusieurs années, parce que je gavais de framboises.
La stratégie de l'employeur,
c'est ça.
Pour, oui. Voilà. Ah oui, vous étiez payé en nature. Je ne sais pas si c'était très légal, ça.
On était payé en nature. On était payé au poids de framboises qu'on avait ramassées, mais on avait le droit d'en manger tant qu'on voulait.
Je comprends.
Parce qu'on était vite dégoûté.
Sachant que c'est un fruit très fragile, donc il faut aller vite avec la framboise. Hein.
Alors, c'est vrai que nous, on va vraiment chercher les raccourcis entre le moment de la cueillette et de la mise en pot. Pourquoi ? Parce que les personnes qui font du vin le savent très bien, nos amis vignerons, c'est qu'au-delà d'un certain temps, on démarre une fermentation où les sucres se transforment en alcool. Et donc, effectivement, il faut moins de 24 heures entre la cueillette et la mise en pot pour avoir vraiment la qualité optimum du sucre naturel du fruit.
Je renvoie nos auditeurs et nos auditrices à la recette que vous avez bien voulu nous offrir, cher Stéphane. Elle est sur franceinter.fr à la page « On va déguster votre confiture de framboise » avec la proportion suivante, 1 kg de framboise. On part du principe que ce sont des framboises de qualité, pourquoi pas du jardin. Vous préconisez la variété Polka, tu l'amènes comme celle qu'on vient de goûter,
oui.
Mais également la Versailles.
Oui, qui est voilà. Une belle variété à gros fruits.
Très bien. Et pour 1 kg de fruits, de framboise fraîche, 650 g de sucre blanc, 200 g d'eau et un citron. Et ce qui est important, visiblement, c'est que vous faites d'abord un sirop avec cette eau et ce citron, et ce sucre, évidemment, dans une bassine. Et ce sirop, vous le portez à ébullition. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le boulet.
La cuisson boulet à 125 degrés. Et il y a une petite astuce avant, c'est que notre citron, on va le porter aussi à ébullition la veille.
Mais quand vous parlez du citron, c'est le jus de citron?
Non, c'est le citron entier, parce qu'on va utiliser le citron en entier. On va porter notre citron la veille à ébullition pendant 7 minutes dans de l'eau bouillante.
Mais vous l'avez coupé?
Non, on le garde entier.
Ça alors?
Voilà, je le garde entier, 7 minutes dans l'eau bouillante. Au bout de 7 minutes, on le refroidit. Et on le met au congélateur.
Mmh.
Et le lendemain, on va reprendre notre citron, on va légèrement le décongeler, et on va démarrer notre sirop avec notre sucre, notre eau, notre citron qui sera là coupé en deux.
Mmh.
Et vu qu'il a été... On a passé à l'eau bouillante, ça a éclaté les fibres. La congélation a éclaté les fibres. Il va libérer naturellement toute sa pectine. Et on n'aura pas d'excès de goût de citron. Pourquoi ? Parce que le fait de l'avoir passé à l'eau bouillante la veille,
oui.
On va avoir enlevé l'huile essentielle qui est très aromatique. Donc, il ne va pas faire d'apport de ce parfum de citron en prédominance. On va juste avoir le maximum de pectine et l'acidité qui va nous permettre de faire une très bonne confiture.
Très intéressant. Mmh. Et une fois que vous avez obtenu votre sirop à chaud, vous y incorporez... Les framboises.
Et on incorpore les framboises quand on est à 125 degrés, on incorpore nos framboises, on reporte à ébullition et on va compter, allez, 12-15 minutes maximum,
ouais.
Jamais au-delà de 20 minutes, une cuisson sur de la pectine naturelle, sinon elle est brûlée, elle ne réagit plus.
Donc et voilà, en 12-15 minutes. Là, vous indiquez dans la recette entre 15 et 18 minutes.
Voilà.
Entre 12 et 18, on va dire. Hein.
Entre 15 et 18, pourquoi ? Parce que ça dépend aussi de la qualité de la framboise. S'il a plu 3 jours auparavant, elle est forcément engorgée d'eau, donc il faut la cuire un petit peu plus.
Et on s'arrête quand ?
Ah ben on s'arrête tout simplement, on fait un petit test à l'assiette. Voilà, les grand-mères faisaient ça très bien. Une assiette froide au réfrigérateur, puis on met une petite goutte, on va dire à partir de 12 minutes de cuisson, et on commence à surveiller si ça gélifie bien, si on n'a pas de problème, si ça coule pas de trop.
La test à l'assiette, ça voilà. C'est aussi ce que fait Laurent Thomas, notre réalisatrice, qui est la reine de la confiote. Elle me dit que c'est beaucoup de vaisselle quand même, parce qu'il faut mettre effectivement des assiettes au congélateur.
Ouais, on peut travailler sur des petites soucoupes, on n'est pas obligé de mettre des grandes assiettes de service.
Ensuite, on écume, on met en pot. En tout cas, tout le processus est évidemment expliqué dans cette recette. J'ai une question, Stéphane Perrotte. Il n'y a pas marqué confiture sur les étiquettes de vos pots. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi ?
Alors, tout simplement parce qu'il y a une réglementation qui existe, une réglementation européenne qui impose un taux de sucre minimum pour cette appellation. Moi, j'ai fait le choix.
C'est 55 grammes de sucre pour 100 grammes de produit fini ?
Voilà, c'est 55 grammes minimum de sucre.
Pour pouvoir apposer
l'appellation confiture.
C'est ça.
C'est ça. Pour avoir le nom confiture sur le produit.
Donc, il n'y a pas assez de sucre pour être une confiture, c'est ça que vous nous
Alors,
dites ?
Alors, nous, on n'a pas assez de sucre pour être une confiture, c'est ça. Mais ça, c'est un choix parce que le sucre était là en tant qu'agent conservateur dans le temps, parce qu'on n'avait pas ces fameuses capsules, et on revient à la paraffine et au petit film. Donc maintenant, on a ces capsules, donc on peut faire des empotages à chaud et des auto-stérilisations qui permettent de conserver et donc de baisser un peu nos charges en sucre pour avoir plus de saveur de fruits.
Mais la réglementation est en train de changer, notamment au niveau européen. Globalement, on va dans le sens de confiture plus fruitée et moins sucrée.
Alors effectivement, la réglementation est en train de changer puisque c'est tout récent, depuis le 14 mai de cette année. On va augmenter le pourcentage de fruits pour avoir les appellations confiture. Alors on ne bouge pas encore le sucre, mais c'est en train de se travailler.
D'accord.
Et ça sera complètement actif au sein de l'Europe à partir du 14 juin 2026.
C'est plutôt une bonne nouvelle pour vous ?
C'est plutôt une bonne nouvelle parce que moi je pars du principe que tout ce qui est fruits cuisinés en pot, avec du sucre, devrait s'appeler confiture. Et après, le client, il choisit le taux de sucre qu'il a envie d'avoir.
Parce qu'avant, on avait un tout petit peu l'impression quand même que les industriels étaient, les opérateurs industriels étaient avantagés. Sachant que pour un industriel, mettre plus de sucre et moins de fruits, évidemment, en termes de coût matière, c'est plus intéressant pour lui.
C'est plus intéressant. Généralement, les artisans travaillent entre 55 à 65% de fruits dans le produit. Un industriel, plutôt entre 45 et 50.
Vous vous sentez pénalisé par le fait de ne pas pouvoir indiquer l'appellation, la mention confiture sur vos étiquettes ?
Honnêtement, non. Non.
Vous avez beaucoup de succès partout.
Les clients, on va dire que c'est le produit qui parle, et les clients, quand ils aiment, ils trouvent ça mieux, au final.
La DGCCRF, Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, encadre la définition confiture, cher Loïc Bienassi. C'est un mélange porté à la consistance gélifiée appropriée de sucre, de pulpe et ou de purée d'une ou plusieurs espèces de fruits et d'eau. La confiture d'agrumes peut, elle, être obtenue à partir du fruit entier, coupé en lamelles et en tranches, etc. Bon, tout cela pour dire que le mot confiture est encadré en termes culinaires, mais aussi, on vient de le voir avec Stéphane, réglementaire. En gros, définition très claire. En revanche, au regard de l'histoire, la confiture, alors là, c'est une notion très complexe.
Oui, ça c'est clair. C'est-à-dire que...
Donc c'est pas clair, justement.
Non, oui, voilà, c'est clair que c'est pas clair. On a... maintenant des textes qui encadrent, des textes qui évoluent, comme ça vient d'être dit. Mais quand on se penche sur l'histoire, ça a été en perpétuelle évolution. Et même quand on voit des auteurs à la même époque, il est clair que leurs définitions ne se correspondent pas exactement. Le mot lui-même, ou plutôt une famille de mots, le mot confiture, on le voit apparaître au XIIIe siècle, où est évoquée une confiture d'herbe dans un poème. Et puis on a d'autres mots, confection qui apparaît aussi, confite, confit. Là, on est XIIIe, XIVe, XVe siècle. Donc c'est une famille de mots, finalement, qui découle du latin conficere, c'est-à-dire préparer. Et si on regarde un traité qui s'appelle Le Ménager de Paris, sans doute écrit vers 1393. Alors, c'est les conseils d'un bourgeois à sa jeune épouse. Donc, comment tenir la maison? Et il parle de confiture. Et on voit des préparations confites. On voit comment aussi conserver, alors, tout un tas, alors, des carottes, des navets aussi.
Et oui, il y a des légumes.
Voilà, des légumes, voilà, dans le miel. C'est le miel qui est utilisé. Et d'ailleurs, il emploie autant le mot compote que confiture pour qualifier ce type de produit. En même temps, on se dit là, on est dans un terrain plutôt connu, on est dans des préparations sucrées, et d'ailleurs, on peut même voir que dès l'Antiquité, on retrouve le miel utilisé dans ce type de préparation. Non pas qu'on ait abondance de recettes, mais on en connaît quelques-unes. Et puis, il y a un autre texte, là, on est au XVIe siècle, cette fois, de Nostradamus. Nostradamus, alors on le connaît pour ses centuries, ses prédictions, etc. Mais, en réalité, un de ses best-sellers, ça a été aussi en 1555, alors l'excellent et moult utile opuscule à tous nécessaires qui désirent avoir connaissance de plusieurs exquises recettes avec une partie sur les confitures. Et on a une trentaine de recettes, Nostradamus propose une trentaine de recettes, et on voit ce qu'il y a dans ce livre, ce sont des confitures liquides, notamment. Qu'est-ce que c'est, ces confitures liquides? Pas l'exact équivalent de ce qu'on connaît, nous, c'est plus des fruits entiers, confits, qui sont en suspension dans un sirop, sans doute pas gélifié comme on le connaît maintenant, sans doute pas ce qu'on appellerait confiture aujourd'hui.
Un peu fruit confit,
mais en suspension dans le sirop. Voilà, c'est pour ça qu'on dit liquide, justement, parce qu'il y a ce sirop. Propose des gelées aussi, gelées de coin notamment, le cotignac aussi, grande recette qu'on dit appréciée de François Ier, enfin qui était appréciée de François Ier. Donc voilà, il y a une famille, mais on se dit là encore normal. On est dans des produits sucrés. Nostradamus, lui, les temps ont changé, utilise du miel et du sucre, hein, sucre de canne, évidemment. Et puis, on voit finalement d'autres traités apparaître et on se dit que les confitures, c'est pas que ça. Parce que si on prend Nicolas de Bonnefond, le jardinier français, 1651...
Oui, c'est ça, on est au XVIIe siècle.
Milieu, donc un siècle plus tard, on voit qu'en fait, lui, il propose aussi des confitures au sel et au vinaigre. C'est-à-dire qu'en fait...
Sans sucre,
absolument sans sucre. C'est-à-dire que l'idée, en fait, c'est de confire, c'est-à-dire de tremper dans un liquide une préparation, en effet généralement sucrée, mais pas seulement sucrée. Et les confitures, c'est ça, en fait. C'est conservé en, je veux dire, confisant, dans un liquide, et il y a différents types de liquides qu'on peut utiliser. Le miel, le sucre, mais pas seulement. Et puis, tout un tas de produits, parce que confiture, c'est aussi un terme générique. Et on voit chez Bonnefond, par exemple, qu'on voit aussi des pâtes de fruits, on voit même des dragées. Parce que c'est toujours ce principe de tremper, d'enrober, en l'occurrence, dans un liquide. Donc les confitures, c'est un terme générique qui qualifie tout un tas de produits qui relèvent de ce principe d'imprégnation par un liquide.
Donc c'est une grande famille. Intéressant, hein, aujourd'hui,
oui,
la confiture, effectivement, son acception s'est considérablement resserrée, Stéphane Perrot.
Alors ça s'est énormément resserré. D'ailleurs, on parle à l'époque, on va dire, dans l'ancien temps, la pâte de fruits était une confiture, mais une confiture sèche. Donc, et c'est vrai que maintenant, elle fait plus partie de la famille des confitures. Elle est vraiment appelée comme pâte de fruits plutôt que confiture, alors que c'était une confiture sèche en ancien temps.
Et ça, ce sens-là, c'est restreint en fait 19e, 20e siècle. Mmh. Petit à petit, les dragées étaient des confitures.
On va voir avec vous dans un instant, mon cher Loïc, qu'il y a aussi cette question de qui préparait les confitures, ça c'est très intéressant.
Autre sujet vaste.
Autre sujet vaste, parce qu'il y a eu différentes corporations qui se sont, entre guillemets, disputées, le savoir-faire de la confiture.
Oui, tout à fait.
On va voir ça avec vous.
France Inter. On va déguster.
Cher Jean-Matta Christol, notre prof de cuisine, on était parti d'une devinette, une spécialité qui mêle donc pain d'épices, confiture et Vosges, c'est bien ça ?
C'est ça, alors nous cherchons un petit pain d'épices qui est garni de marmelade d'orange que je suis en train de vous faire passer, qui serait originaire des Vosges. Est-ce que vous l'avez ?
Est-ce que vous l'avez ?
Oui, c'est bon.
C'est quoi ?
C'est la nonette.
C'est la nonette.
Les nonettes.
Bon, bah, vous avez un peu de culture, c'est bien.
Alors, les nonettes, comme souvent en cuisine, quand c'est simple, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Et quand c'est compliqué, ça l'est parfois pour pas grand-chose. Il y a donc plein de choses à dire derrière cette apparente simplicité des nonettes. Commençons par le pain d'épices. Si le pain d'épices n'est pas une grosse brique couleur sinopia au reflet cuivré, si sa mie ne s'effrite pas comme un vieux mur, qu'elle ne colle pas aux dents pendant 8 heures et qu'elle ne vous gratte pas à la gorge lorsque vous tentez de l'avaler, c'est que ce n'est pas un pain d'épices, c'est un cake. Là où le cake contient des œufs et une quantité presque raisonnable de sucre, le pain d'épices ne contient pas d'œufs, mais une quantité absurde de produits sucrants. Le sucre et avant lui le miel sont connus comme conservateurs depuis l'Antiquité, on en parlait à l'instant, avec par exemple l'Hypanis nauticusi des navigateurs romains, un biscuit de mer qui était frit et qui supportait de longues traversées, qui était constitué de miel et de farine, tout comme le Miking chinois, un pain-miel populaire au Xe siècle sous la dynastie des Tang. Donc quand je vous parle d'une quantité absurde de produits sucrants, on n'a pas besoin de remonter à la Rome antique, puisque dans le Mémorial historique et géographique de la pâtisserie de 1900, je trouve un pain d'épices, qui contient presque autant de miel et de sucre que de farine,
wow.
Donc consistant. Bien sûr, à cela, il faut rajouter les épices ramenées de Terre Sainte lors des croisades. En France, on ajoute un peu de légende, un peu de on-dit, et on saupoudre d'esprit français et on obtient le seul, l'unique, pain d'épices de Reims.
Ou de Dijon, non, quand même, non ?
L'Alsace, non ?
Moi, je crois qu'à Bourges, il y en a un très bon aussi.
Alors, ça y est, vous l'attaquez sur... effectivement, il y a plusieurs écoles françaises du pain d'épices.
Difficile, en effet, de mettre tout le monde d'accord. Ce qui est à peu près sûr, c'est que les nonettes auraient été mises au point par des religieuses, d'où leur nom, donc, installées à Remiremont, dans les Vosges, qui les auraient fabriquées pour la première fois au début du XVIIIe siècle. Perpétuant ainsi la tradition des monastères et couvents, producteurs de produits de conservation longue à base de gras, d'alcool ou de sucre. Les nonettes entrent ainsi dans deux catégories. La première, la catégorie des pâtisseries qui tirent leur nom d'une fonction religieuse, tout comme les visitandines que vous connaissez peut-être, ou encore la religieuse au café, qui symbolise la couleur de leur tenue, ou les paix de nonnes, qui se moquent de leur vertu. Et deuxième catégorie, celle des gâteaux de voyage, c'est-à-dire destinés à être emportés avec soi pour manger plus tard, ou pour offrir, ou pour garder les jours de désarroi gourmand. D'ailleurs, si la version à l'orange est attestée dès l'origine en raison de la popularité des oranges amères de Séville, on trouve plus tardivement des versions à la confiture d'abricot ou de cassis. Dans tous les cas, le sucre de la garniture contribue aussi à la longue conservation des nonettes, puisque selon les recettes, elles pourraient se garder de 40 jours à 6 mois. Alors on y va pour les recettes.
Bah nous, on l'a déjà goûté. Hein.
Ouais. Voilà. Excellent.
C'est
très
bon,
souple.
Hein. Avec une légère amertume. Mmh. Vous avez fait et la marmelade.
Oui, monsieur.
Et le biscuit.
Oui, 100% diabète.
Bravo. Alors, ce qu'on appelle un sugar rush.
C'est ça. Donc, pour environ 12 nonettes, alors le détail de la recette est bien sûr sur le site de l'émission. Simplement, pour vous amener dans le détail, on fait fondre ensemble, on fait chauffer ensemble du beurre, du miel, de l'eau et du sucre. Une fois que le beurre est fondu, on retire tout ça du feu, on laisse refroidir la préparation et on va ajouter les produits secs, à savoir la farine, puis le mélange d'épices moulues. On mélange tout ça bien comme il faut, on met dans des moules, on met sur le dessus de la préparation une bonne cuillère de marmelade d'orange, on enfourne, alors on fait une double cuisson, donc on va démarrer à four chaud tout de suite pour mettre un petit choc thermique, 10 minutes à 210, et ensuite on va cuire 10 à 15 minutes à 160 sous surveillance, on vérifie bien. À la sortie du four, on nappe avec un mélange de jus d'orange et de sucre glace. Moi, ce que j'ai fait, en l'occurrence, histoire qu'on ait bien l'orange, j'ai juste délayé un petit peu de marmelade avec de l'eau et j'ai nappé directement à la sortie du four. Et sur le site, j'ai également mis ma recette de marmelade d'orange dont je vous ai apporté un petit pot chacun.
Non,
voilà. C'est mignon.
C'est adorable. Merci beaucoup. C'est vraiment un régal, hein, ces nonnettes à la confiture d'orange. Est-ce que vous vous souvenez du nom de ce biscuit industriel qui s'est inspiré, évidemment, de la nonnette ?
Chamonix.
Bravo. Mmh. Ah, vous dites Chamonix.
Fallait pas.
Non, non, je sais pas. Les gens de Chamonix disent plutôt Chamonix, mais...
Ils mangent pas de Chamonix.
En tout cas, on reconnaît chez Loïc Bienassi le bec sucré invétéré. Ouais, c'est effectivement le Chamonix qui existe encore, d'ailleurs, j'ai vérifié, hein, sous la marque Lu. Ah, on fait évidemment aucune publicité, mais c'est un constat. Et c'est intéressant de voir comment les industriels se sont aussi inspirés du patrimoine français, tout en sachant que des spécialités de biscuits à base de confiture, il y en a un paquet, hein, entre les lunettes, les barquettes aux fraises.
Ah, les lunettes, les barquettes aux fraises. On peut retrouver aussi en pays catalan le bras de gitan, qui est un biscuit roulé où on peut mettre de la confiture aussi.
Le bras de gitan.
C'est vrai qu'il y en a partout, quoi.
Et le bras de gitan, ça m'avait échappé, mais c'est intéressant.
Ouais,
on aime beaucoup ces petites curiosités culinaires dans toute la France. Merci beaucoup. Alors, dans un instant, évidemment, Stéphane Perrotte, tous vos conseils, vraiment précisément, avec plein de questions d'auditeurs, sur la confection, la préparation, le savoir-faire des confitures. Et puis, on vous révèle aussi notre banc d'essai des meilleurs pots artisanaux.
Intentionnel. Intentionnel.
Trop près de ma bouche, tu as posé tes lèvres, et moi j'ai cru que c'était intentionnel. Mais ne sois pas farouche, je ne veux pas le ciel, je cherche juste l'amour passionnel.
Moi qui pensais faire mouche, c'est tout bien au contraire, encore un coup d'amour imaginaire. Je reste sur la touche, tu ne me laisses plus faire. Oh, j'ai encore une fois brûlé mes ailes.
Intentionnel. Intentionnel. Intentionnel.
Et si la nuit je doute, serais-je devenue panthère à trop toucher du doigt? Et la nuit sous la douche, une grande montée de fièvre. Oh, fais-moi faire le mode plaisir originel. Tu m'envoies des images. Moi, je m'imagine déjà demain avec toi. Des messages au refond. Tambourine pour que chacun reste à la vitrine.
Tombe une claque, tu souffres. J'accours, c'est l'infirmière. Mais vendre du rêve, tu sais, c'est criminel. Je brûle toutes mes cartouches. Dis-moi juste que tu m'aimes. Mais dis-le comme si c'était intentionnel. Tu m'envoies des images. Moi je m'imagine déjà demain avec toi.
Intentionnel de Simone Ringer et Mathilde Fernandez.
Sur France Inter, avec François-Régis Gaudry, on va déguster.
On plonge dans les bassines de confiture avec notre invité du jour, le roi de la confiture, champion du monde quand même, Stéphane Perrotte, qui nous a apporté une très belle collection de pots, dont un qu'il vient d'ouvrir. Et c'est Justine et Jean qui sont en train de le déguster. Mmh. Vous avez identifié un parfum ?
Ben, je dirais la poire.
Non, non, perdu.
Ah non.
Perdu.
Jean.
C'est bon, mais je sais pas ce que c'est. Du coin, peut-être ?
Non, alors c'est simplement, c'est une pomme avec un caramel.
Oh, on n'est pas très loin.
Voilà, c'est Justine. La... Et à l'intérieur, il y a un petit...
Attendez, vous avez dit, donc, pomme
ouais. Caramel beurre salé.
Caramel beurre salé.
Voilà. Avec un petit trait de calvados hors d'âge.
Oh là là.
Et ça, là aussi, c'est les souvenirs d'enfance qui remontent à la surface, Stéphane.
Bah, ça, c'est un souvenir d'enfance. C'est un petit clin d'œil à mon arrière-grand-mère, parce que quand j'étais à Valogne, je traversais la chasse en tonne pour aller dire bonsoir à mon arrière-grand-mère. Elle avait un vieux poêle à charbon où elle faisait cuire toujours des petites pommes au four avec du sucre du beurre, bien sûr, parce qu'on est en Normandie, et le petit trait de calva. Donc, quand vous avez 7-8 ans, le petit interdit du calvados le soir, c'est très bien, ça permet de bien dormir.
On les trouve où, vos confitures ?
Oh, on les trouve...
dans beaucoup de points de vente. Hein.
Oui, alors beaucoup de points de vente. On travaille qu'en exclusivité, donc on a des partenaires exclusifs. On travaille qu'avec des artisans, donc on ne sera pas présent dans les grands magasins comme la Grande Bête d'Épicerie et autres. Ça, c'est un choix. On trouve, par exemple, sur Paris, la fromagerie Saison. Et puis après, on fait beaucoup de créations sur mesure pour des chefs comme Anne-Sophie Pic, Jean Sulpice, Alexandre Couillon.
Je crois que vous travaillez également pour la Tour d'Argent.
La Tour d'Argent,
vous faites les confitures
aussi,
de la Tour d'Argent.
Collection aussi, oui, oui.
Vous êtes vraiment un artisan tout à fait exceptionnel dont on trouve les magnifiques confitures un peu partout en France. On peut même les acheter en ligne. Hein.
Oui, bien sûr, on peut les acheter aussi sur notre site internet.
Et d'ailleurs, vous êtes très bien représenté dans le banc d'essai. C'est aussi pour ça qu'on vous a invité, car on a fait un banc d'essai des meilleurs pots de France et un peu de Navarre aussi. Il y a quelques confitures italiennes, québécoises ou même ivoiriennes de Côte d'Ivoire. Avec les équipes de notre émission Très Très Bon sur Paris Première, on a testé des dizaines et des dizaines de confitures artisanales et il en ressort 25 confitures coup de cœur que nous avons classées par parfum, fraises, myrtille, figue, agrumes, framboises, abricots, plus les confitures créatives et quelques confitures étrangères, je le disais. Et on vous a fait également une liste des meilleures maisons artisanales dans toute la France. On retrouve évidemment la fée des confitures, Christine Ferber en Alsace. J'ai quelques pots là, c'est incontournable, Christine Ferber. Alors,
Christine, elle est incontournable. Elle a vraiment redonné les lettres de noblesse à ce produit.
Parce elle a changé sa discipline. Hein.
Ah oui, oui, clairement. C'est, on est passé dans un autre monde au niveau de la confiture grâce à Christine.
Alain Millat dans la Drôme, la Trinclinette en Bourgogne, maison très connue qui est distribuée partout. Bio Momo Hashimoto, il va falloir surveiller ce couple de Japonais installé dans le Gard qui fait un travail créatif tout à fait extraordinaire. Ce grand banc d'essai est à consulter, auditeur et auditrice sur franceinter.fr à la page On va déguster. Et je remercie tout particulièrement, parce que ça a été une énorme logistique et beaucoup de sucre emmagasiné dans nos petits organismes, Salomé, Thomas, Mathilde, Judith, Morgane et Louis.
Alors, au chapitre des confitures créatives, on a plein de réactions d'auditeurs et d'auditrices. Mireille, par exemple, nous parle d'une confiturière installée à Mainvilliers qui fait clémentine menthe, clémentine vanille, mûre clémentine, tomate aux épices, melon vanille amande. On a Pascal Garcia, dans le 10e à Paris, qui nous parle de ses confitures à elle, abricot à l'amaretto, poivron rouge au safran. On a également Geneviève Joussel, à Saint-Etienne, qui nous parle d'une confiture de cheveux d'ange avec de la courge de Siam. Geneviève, il faut m'en envoyer un pot, ça m'intéresse. Et on a un témoignage de Nadine Ibrahim qui nous explique qu'elle a toujours adoré faire des confitures, mais qu'elle les rate tout le temps. Elle est connue dans sa famille pour ses confitures ratées. Ce qui m'emmène à plusieurs questions d'auditeurs.
Ça peut être bon une confiture ratée, hein.
Bah, pour le biscuit roulé, par exemple.
Il y a beaucoup de grandes recettes qui sont nées d'accidents aussi.
Et ce qui m'emmène à la question suivante, beaucoup de questions sur le sucre ou les sucres qu'on utilise.
Ah.
Alors, on nous parle de, par exemple du glucose et du fructose des industriels. Axel Bouvard à Lyon nous dit qu'elle remplace une partie du sucre par des pralines pour sucrer ses confitures. Et d'une façon générale, on a également 2-3 questions qui reviennent pour quelle confiture pour les diabétiques, quel sucre on va utiliser.
Alors ça, qui dit évidemment confiture, dit sucre. Et là, il y a effectivement d'abord, avant même les alternatives, il y a d'abord ce clivage entre le sucre roux ou le sucre de canne, ou le sucre blanc, sucre de betterave globalement.
Oui, il y a clivage, mais après je dirais que c'est un faux clivage. Quand on est effectivement dans des terroirs comme notre territoire d'outre-mer où on a du sucre de canne, bah, c'est la logique de travailler avec du sucre de canne. Nous, chez Maison Perrotte, en France, on est avec des producteurs français, donc on travaille avec du sucre de betterave.
De
métropole, puisque le nord et l'est de la France ont effectivement une grosse production de sucre de betterave.
D'autant que la nature du sucre peut avoir une incidence sur la couleur de la confiture.
Alors ça a une incidence à la fois sur la couleur et sur l'aspect gustatif aussi, parce qu'effectivement quand on va chercher des sucres par exemple type Rapadura, on a des marqueurs très importants.
Ou Muscovado, on a des notes réglissées, presque épicées. Et à ce moment-là, le sucre peut être utilisé comme une forme d'épice.
Alors c'est ça qui est intéressant, par exemple un très bel ananas de La Réunion avec justement un peu de sucre de canne dedans, on va avoir des notes plus caramélisées, plus rondes, puis relevées avec un petit rhum dedans, c'est pas mal.
On nous demande aussi, auditeurs et auditrices, beaucoup nous demandent ce que vous pensez de ces sucres industriels spécial confiture qu'on achète au supermarché et qui sont chargés en pectine, sachant qu'on va venir à la pectine évidemment, c'est important.
Alors les sucres industriels, il est du sucre prêt à l'emploi, ce qu'on appelle les vite-pris. en termes de marque, c'est des sucres enrichis en pectine. Alors, ce qu'il faut vraiment regarder, c'est si dedans, c'est écrit dans l'étiquette, dans la composition, pectine ou pectine de fruit. Si c'est une pectine de fruit, c'est une pectine qui est naturelle, issue du fruit. Si c'est juste écrit pectine, c'est une pectine de synthèse. Souvent, ces sucres, la difficulté, c'est qu'ils permettent effectivement, c'est un filet de sécurité pour, on va dire, pour le consommateur qui veut faire sa confiture chez lui. Ça permet de gélifier très vite. Mais ça gélifie tellement vite que des fois, on ne pousse pas suffisamment la cuisson. On peut se retrouver avec des fruits qui, malheureusement, sont pris en gélification, mais qui ne sont pas cuits. Et là, on a des mauvaises surprises, on va dire, une fois que c'est mis en pot, on a des démarrages de fermentation lactique. Puis, ce n'est pas très sympa d'avoir les pots qui soufflent et puis il faut nettoyer tout le placard. Ce n'est pas très, très agréable.
Soyons clairs, Stéphane Perrotte, vous recommandez l'utilisation d'un sucre semoule classique. Et c'est les fruits que vous utilisez pour faire votre confiture qui va se charger de la pectine, en fait. Ou éventuellement, on en ajoute plus naturellement. Vous savez, il y a la stratégie de la grand-mère qui consistait à enfermer dans une boule à thé ou dans une gaze des épluchures de pommes qui dégagerait beaucoup de pectine, parce que c'est un fruit riche en pectine, pour apporter un gélifiant naturel à la confiture. Vous pensez quoi de ce tour de main ?
Ah ben moi, je trouve qu'il y a plusieurs méthodes. C'est-à-dire que nos grand-mères, effectivement, moi, comme je vous l'ai expliqué juste avant, on peut travailler sur le citron en soi qu'on a fait blanchir, là, qui amène. Il y a effectivement ce fameux petit nouet où on mettait les épluchures à l'intérieur. Mm-hmm. Il y a aussi où on peut s'amuser à faire une gelée de pommes, comme fait Christine, de pommes vertes Ferber. Au début de la saison. Voilà, Christine Ferber fait sa gelée de pommes vertes en début de saison et elle vient rajouter un peu de gelée de pot de verre dans sa confiture, par exemple de cerise, pour aider à la prise. Mm-hmm. Donc voilà, il y a plein de petites astuces comme ça qui peuvent exister.
Beaucoup, beaucoup de questions sur le métal du récipient de cuisson. On parle de la fameuse bassine en cuivre comme le totem absolu, l'ustensile indispensable. Cuivre ou pas cuivre ?
Alors nous on cuit tout en cuivre, voilà.
Et pour quelle raison ?
Alors on cuit tout en cuivre pour plusieurs raisons. Un, le cuivre c'est le meilleur matériau en termes de conduction de chaleur.
Ah, déjà c'est important.
Donc ça c'est important et c'est vraiment ce qu'on a besoin dans la confiture, c'est d'avoir une cuisson, on va dire, vive, pour pouvoir, et homogène. La deuxième chose c'est qu'à l'intérieur du cuivre, il y a des ions de cuivre. Et ces fameux ions de cuivre permettent de favoriser la gélification.
Ah ben on revient encore à la pectine.
Voilà.
Donc le cuivre permettrait au fruit de libérer sa pectine en quelque sorte.
Alors il y a une réaction chimique qui se passe entre la pectine, mm-hmm. les ions de cuivre et l'acidité. Et là effectivement l'ensemble permet d'avoir une, on va dire, c'est la pectine. Faut imaginer que c'est des petits personnages qui se tiennent par la main. Et le fait que on travaille sur du cuivre, ces petits personnages ils se tiennent mieux par la main. Donc on a une meilleure gélification. Sur de l'inox, on a souvent des confitures qui sont un peu plus liquides.
Donc on choisit plutôt du cuivre.
Plutôt du cuivre.
Une autre question d'auditeurs et d'auditrices concernant l'écume. Faut-il, oui ou non, écumer sa confiture lorsqu'elle est en train de cuire, c'est-à-dire enlever cette petite mousse qui se forme à la surface et qui contiendrait les impuretés du fruit, c'est ça ?
Alors souvent la petite écume, c'est les impuretés du fruit et du sucre, parce que le sucre aussi a des impuretés. Alors il ne faut pas l'enlever pendant la cuisson. Parce que quand on est pendant la cuisson, il y a une ébullition qui se fait, qui fait que la pectine est en suspension aussi dans l'écume. Et si on enlève l'écume, on enlève une partie de la pectine qui est en suspension, qu'on a besoin pour gélifier notre confiture au refroidissement. Donc on le fait surtout pas. On va attendre la fin de la cuisson, uh-huh. et on va enlever délicatement la mousse, l'écume, en fin de cuisson.
Laurane Thomas, toujours notre réalisatrice, qui fait beaucoup de confitures à la maison, me disait que depuis qu'elle utilisait des produits sains, des fruits bio notamment, il y avait moins d'écume qui se formait, elle se fatiguait plus tellement à enlever l'écume en fait. Est-ce que vous y croyez à ça ?
Alors, l'écume, elle vient sur deux choses. Elle ne vient pas forcément du fruit, mm-hmm. Mais il y a sans doute un intérêt aussi quand même d'avoir des fruits bio, c'est quand même mieux. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que l'écume, elle vient surtout de la manipulation. C'est-à-dire quand on a paré les fruits, découpé nos fruits, dénoyauté nos cerises, et bien là, on a des manipulations qui forcément amènent des germes et ces germes-là, on va les enlever dans l'écume.
Il y en a qui mettent une petite noix de beurre qui aurait pour fonction de dissoudre l'écume pendant la cuisson de la confiture. Vrai ou faux ?
Alors oui, c'est vrai. On le voit souvent sur les étiquettes de produits souvent industriels. La raison est très simple, c'est que ça permet de faire redescendre les particules d'écume, donc les impuretés, dans la confiture.
Oui.
Est-ce que vous avez des questions, Jean ?
Alors moi, j'ai plein de questions et plein de remarques. Dans les questions... On me demande, dans les remarques d'abord, Patricia nous parle d'une confiture d'orange à la lavande de l'Isle-sur-Sorgue. Mm-hmm. Valérie nous parle d'une confiture, j'ai la confiture de pomme plein la bouche.
Ben je vois ça.
Valérie nous parle de confiture de gégéride et pour revenir sur ce qu'on disait avec Loïc tout à l'heure sur le fait de confire et le confisage, on nous parle également de confiture à l'ail noir de Cambrai. Et moi je sais que l'été je fais également une confiture de piment où je mets également beaucoup de sucre avec de l'oignon et des petits piments longs marocains. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ? des confitures finalement avec des fruits, des légumes, pourvu qu'il y ait du sucre pour accrocher
sachant
tout ça.
Sachant qu'il y a également dans la législation pas mal de végétaux qui sont intégrés dans la famille des fruits pour faire des confitures. Je veux parler de la patate douce par exemple, qui est un tubercule. Je crois qu'il y a la rhubarbe également. Fabrice Rivaud m'avait fait une liste complète, je ne me souviens plus exactement, mais il n'y a pas que des fruits dans confitures officielles.
Il n'y a pas que des fruits. On peut, je dirais presque, faire de la confiture avec tout. Nous, par exemple, en période de fin d'année, on fait une poire William à la truffe. Mmh. Mais, par exemple, si on reprend un petit peu en Espagne aussi, ils font des confitures à partir d'aubergines, courgettes, poivrons, sans aucun problème. Je dirais que la confiture, en fin de compte, c'est juste de la cuisine, mais de la cuisine avec des fruits, avec des légumes. Moi, je me suis amusé à faire une framboise carotte fenouil.
Génial. Voilà. Vous en nous faites goûter ça?
Ah, je l'ai pas.
Ah, malheureusement. Mais preuve que la confiture, c'est vraiment un terrain d'expression et d'expérimentation tout à fait intéressant et accessible également à tous ceux qui nous écoutent. C'est vraiment un savoir-faire. D'ailleurs, il va se poser avec notre ami Loïc la question de qui fait les confitures. C'est vrai que c'est une discipline qui est pas vraiment officiellement reconnue. Par exemple, il n'y a pas dans ce grand concours des meilleurs ouvriers de France une section confiture. On va dire que ça, c'est un savoir-faire qui appartient plutôt aux chocolatiers, confiseurs.
Alors, ça fait partie de la grande famille des chocolatiers confiseurs. Mmh. C'est vrai que malheureusement, mais ça devient de plus en plus un vrai métier en soi. Il n'y a pas de formation. On a lancé des formations avec la Fédération des artisans confituriers de France.
Ah, vous organisez.
Donc, on commence à s'organiser en filière. Maintenant, on est pas loin d'une quarantaine d'artisans sur toute la France. Et on travaille vraiment sur un référentiel métier pour pouvoir faire reconnaître effectivement cette formation. Parce que il faut former aussi les futurs repreneurs de nos entreprises et les futurs jeunes confituriers.
Loïc Bienassi, le savoir-faire de la confiture n'a pas toujours été l'apanage des artisans de bouche.
Non, alors d'abord, c'est d'abord, j'allais dire, un savoir-faire domestique. Tout à l'heure, je parlais du ménager de Paris, fin 14e siècle. C'est un traité d'économie domestique. Donc il y a cette première tradition, à l'origine plutôt des maisons bourgeoises, parce que ça coûtait cher de faire des confitures, qui dit miel, qui dit sucre. Donc ça, c'est la première tradition. Et ce qui peut davantage nous étonner aujourd'hui, c'est que c'était les apothicaires, les pharmaciens au Moyen-Âge, qui étaient un peu les dépositaires de tout ce qui était lié au sucre. D'ailleurs, une tradition qu'on n'a pas évoquée, c'est la tradition arabe. C'est-à-dire que cette manipulation du sucre et des fruits, la pharmacopée arabe l'avait développée, elle a pénétré ensuite en Occident. Donc les premiers dépositaires de ce savoir-faire, c'était le sucre médicament, clairement.
Vous êtes en train de nous dire que la confiture était ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un alicament.
Tout à fait, ça c'était clair. Et puis les épiciers, alors en font, alors qui vendent des épices, qui ont aussi d'ailleurs des propriétés diététiques, font aussi des confitures au Moyen-Âge, et progressivement à l'époque moderne, on va dire 17e siècle, si on doit choisir un point de bascule, ce sont les épiciers qui font des confitures. Certains se disent d'ailleurs confituriers, confiseurs, plus que les apothicaires, à partir du XVIIe siècle. Donc là, il y a un peu ce monopole qui se met en place à ce moment-là. Dans les boutiques, ce sont des boutiques d'épiciers. Et puis, il y a aussi un troisième lieu où on fait des confitures, c'est au sein des maisons aristocratiques.
Oui.
Parce que les confitures, ce n'est pas le domaine de la cuisine, mais le domaine de ce qu'on appelait l'office. Mm-hmm. Les chefs d'office, c'est-à-dire ceux qui avaient en charge la dernière partie du repas, le dessert ou le fruit, les deux mots étaient employés. Eh bien, au moment du dessert, du fruit, on consommait, les confitures étaient... Alors, avec toutes les nuances que j'ai apportées tout à l'heure, les différents types de confitures, les confitures sèches, confitures liquides, étaient consommées en fin de repas. Et ce n'était pas les cuisiniers qui chargeaient de cette fin de repas, mais les chefs d'office. Donc, à l'époque moderne, au Moyen-Âge, on a ces différentes traditions. Et puis, au 19e siècle, commence à se développer une industrie, évidemment, avec le sucre de betterave, qui désormais s'impose à partir des années 1830 en France. Et on a là vraiment une tradition industrielle qui existe en France, et pas qu'en France. L'Angleterre, par exemple. Oui, puis jusqu'à aujourd'hui.
Citons cette fameuse marque dont le pot représente une espèce de nappe Vichy, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, ça finit par bonne, ça finit par maman.
C'est ça.
Qui est une marque assez récente finalement. Mais par exemple.
Mais qui joue sur la tradition, avec un marketing très très pointu. Hein.
Ouais, mais qui date de 71, je crois.
Petite devinette, allez, juste comme ça, savez-vous, selon un sondage datant de 2022, commandité par la marque de bocaux Le Parfait, les deux régions de France où l'on fait le plus de confitures à la maison.
Alsace.
Bravo. Bravo. Alsace, première réponse. Et deuxième.
Provence, peut-être.
Non.
La Normandie.
Non. Chauvin. La Bourgogne.
La Bourgogne.
Une grande tradition
le cassis.
De confiture en Bourgogne, notamment le cassis. Mais c'est vrai que c'est une région où encore aujourd'hui, à la maison, les grands-mères, les grands-pères, mais également les jeunes cuisiniers et cuisinières font évidemment des confitures.
Avec le pain d'épices.
On va déguster. Sur France Inter.
Justine Knapp, notre chroniqueuse vin, s'interroge sur cette question du dosage du sucre, qui concerne évidemment les confitures, mais aussi le vin, et plus particulièrement, Justine, une famille de vins.
Alors, pour la fabrication de la confiture, déjà, en ce qui me concerne, je sucre le moins possible, parce que j'aime sentir le goût du fruit, et pas celui du sucre. Et si je prends les confitures de mes grands-parents, la teneur en sucre me semble toujours énorme, et je doute qu'il ne s'agisse que d'une histoire de conservation. Le sucre, historiquement, bah, c'est une richesse, hein, c'est le goût du luxe. Et c'est surtout une appétence qui évolue au fil des générations. Et on croise le même sujet dans le monde du vin, particulièrement pour les champagnes et les créments. Alors, commençons par le début. Y a-t-il du sucre ajouté dans les champagnes et les créments ? Oui, il y en a.
Champagne, créments, alors on rappelle, Justine, hein, même méthode de fabrication, mais pas la même région de fabrication.
Voilà, exactement. Alors, pour la méthode de fabrication en accéléré, une première fermentation, on obtient du vin. Deuxième fermentation en bouteille, on ajoute des levures, un peu de sucre pour qu'elles aient à manger. Les bulles se créent, les levures meurent, ça forme un dépôt, on l'expulse. Et c'est à ce moment-là, juste avant de mettre le bouchon définitif, qu'on peut ajouter un mélange de vin et de sucre. On parle de liqueur de dosage.
Et oui, la fameuse liqueur de dosage.
Et ça, c'est une dernière touche, donc plus ou moins lourde. Et pour se repérer sur la bouteille, on se fie au extra brut, brut, demi-sec, etc. Et cette liqueur de dosage, ben, c'est un classique. En champagne, les bouteilles sans les zéro dosage, ben, c'est moins de 1% de la production. Une famille bien connue pour ses champagnes non dosées, c'est la famille Drapier.
Et évidemment, avec à sa tête Michel et ses enfants.
Exactement. Et l'anecdote, c'est qu'ils ont commencé à la fin des années 80 à élaborer des champagnes sans ajout de cette liqueur sucrée, et en plus sans soufre. Mais au départ, c'était seulement pour leur consommation personnelle. Parce qu'à cette époque, qui aurait voulu d'un champagne salin, porté sur l'amertume, sans cette rondeur sucrante ? Enfin, pas grand monde. Et le père, justement, Michel Drapier, me disait que dans les années 90, sur une dégustation à l'aveugle au domaine, 95% de la clientèle préférait l'un de leurs champagnes avec dosage, avec liqueur. Et aujourd'hui, même exercice, au moins 50% des gens choisissent à l'aveugle la cuvée sans. Donc c'est énorme et ça dit le goût de l'époque.
Pourquoi doser un vin, Justine ? Pourquoi faire le choix d'ajouter cette fameuse liqueur de dosage ?
Dans le pire des cas, c'est un maquillage des défauts. Donc ça permet par exemple d'arrondir les angles de raisin pas mûrs et de donner du goût à un vin trop jeune, trop vite fait. Et dans le meilleur des cas, la liqueur, elle profite à l'équilibre en bouche, juste un peu pour la souplesse. On joue presque plus sur le mouvement du vin que sur son goût. Et ce qui compte, selon le champenois, donc Michel Drapier, c'est la qualité du sucre. C'est une douceur qui peut être grossière, agressive, poisseuse, pesante. Et sa méthode, eh ben, c'est de le laisser vieillir au moins 15 ans. Donc il lui a fallu d'ailleurs des années pour trouver comment et dans quoi faire vieillir le sucre, parce que c'est une substance corrosive, hein, comme l'eau de mer. Et avec le temps, bah, ce sucre, il se concentre, il confit comme un miel, il devient plus intéressant.
Donc le sucre n'est pas non plus une substance à bannir, c'est en fait une question de dosage.
Oui, d'équilibre.
Mais ce que vous avez choisi d'apporter, Justine, c'est un vin sans liqueur ajoutée, sans sucre.
Voilà.
Ajouté.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sans dosage, on ne peut pas tricher. Ça demande une grande précision à la vigne et en cave. On a besoin d'une qualité irréprochable de raisin et surtout qu'il soit mûr. Parce que sans dosage, si on veut éviter un vin sec et austère, bah, il faut qu'il y ait cette chair en bouche. Et donc, pour illustrer, j'ai apporté un crément d'Alsace. Pas de liqueur, mais un fruit mûr qui donne du rebond à la bouche et un temps long d'élevage sur lit, dans la bouteille, la tête à l'envers, pendant 3 ans. Ça apporte un crémeux. Donc, on a cette sensation de rondeur, de charnu, mais à cœur, qui n'est pas apporté par un enrobage de sucre un peu dissocié. Et j'adore particulièrement dans ce vin la manière qu'il a de prendre de la vitesse avec sa puissance minérale, salinité, en amertume délicieuse, et cette saveur qui nous reste en bouche, profonde, épaisse.
Salivante, c'est salivant. Qu'est-ce que c'est bon, vous aimez ou pas
ce crément? C'est très très bon.
Tout à fait, oui, non, c'est exactement ça, cette salinité.
Le sucre vous manque pas trop, Loïc ?
Si, c'est un peu
dur. Et je pensais qu'après les confitures qu'on avait dégustées avec notre palais un peu saturé, on allait avoir quelque chose de strident.
C'est pas le cas ?
Et non,
c'est parfait.
Ah, bon, bah, super.
Donc preuve qu'il est, il est bien taillé.
Alors c'est un crément donc, alsacien en biodynamie, vinifié sans intrants, nature, 19,60€. Un cadeau hein, pour cette élégance et cette précision. Domaine Leuve, Caroline et Étienne Leuve, à Westhoffen, un peu isolé, au nord du vignoble de l'Alsace. Et Étienne me disait un jour que son propre goût avait évolué au fil du temps. Il l'a installé depuis 96. Et un des reproches qu'on avait pu faire à ses vins était d'être trop sucré. Et c'est sa femme, Caroline, qui aime l'acidité et l'amertume, qui l'a initié à ses saveurs. Et les vins ont suivi le vigneron, la preuve.
Merci, vraiment très très belle découverte. Toutes les références sur franceinter.fr à la page On va déguster, avec notamment aussi des champagnes drapiers.
Oui, quelques compléments sur le site. Et puis deux autres créments non dosés, gourmands, que j'ai bien aimés.
Merci beaucoup Justine,
avec
on s'est absolument régalé, on arrive à la fin de cette émission, je suis très frustré. Qu'est-ce que vous allez nous faire goûter après l'émission là ? Allez, une petite panoplie de parfums.
Alors on a
Stéphane Perrotte.
On a les plusieurs variétés de fraises qui sont là, la sifflorette, la mariguette, la dream qui viennent d'arriver.
Là, on va s'en mettre jusque là des fraises.
Et puis on a une petite, la ripopée qui était une pomme poire coing, une vieille recette de 1840 justement d'Anjou.
Perrotte, quand je vous dis que c'est un champion de la confiture, une petite remarque en deux mots, hein,
deux,
Jean.
Deux petites remarques. On a Jérôme qui nous dit, pour faire le pont avec ce que disait Justine, que quand il nous reste des fruits à la fin de la sangria, on peut faire de la confiture avec. Et en guise de conclusion, on a, je crois que c'est Sylvie qui nous dit que Perrotte, en hébreu, ça veut dire fruit.
Oui, tout à fait. Voilà,
donc,
tout à fait.
Non.
Si, si.
Bah, il fallait commencer par ça, Stéphane.
On finit par ça. Voilà.
Un grand merci, Stéphane Perrotte, d'être arrivé avec vos pots. Bravo pour votre talent tout à fait exceptionnel. La maison Perrotte avec toutes ses confitures. Il y a un site internet, toutes les infos sur franceinter.fr à la page On va déguster. La semaine prochaine, on va déguster Joue les prolongations. Tiens, tiens, on vous sert pour notre dernière émission de l'année les meilleurs plans gourmands de l'été avec nos chroniqueurs et nos chroniqueuses. À dimanche prochain. Si vous avez encore faim, et dans un instant, Karine Bécard et son équipe au micro de questions politiques. Bonjour Karine.
Bonjour François-Régis Gaudry. C'est Louis Alliot, notre invité ce dimanche, le maire de Perpignan, premier vice-président du Rassemblement National, le RN, qui fait la course en tête à une semaine des élections législatives. Mais avec quel programme et pour quelle majorité ? Allez, je vous dis à tout de suite.
Là, c'était la... Évidemment, la cuisine politique, mais on revient aux confitures pour signaler aussi que votre confiture abricot est arrivée en tête de notre banc d'essai sur le parfum abricot. Bravo,
c'est gentil,
Stéphane Perrotte.